Grand Angle.
Vous êtes bien sûr à Radio Orient, Grand Angle spécial municipal, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Les municipales dimanche prochain et le 22 mars prochain apparaissent moins comme une répétition générale nationale que comme un révélateur des recompositions en cours. Gros plan avec vous, Henri Vernet, journaliste, chroniqueur politique, écrivain, sur les enjeux pour les partis politiques. Qui a le plus à gagner et inversement, on se rappelle, Henri Vernet, de la percée des écologistes en 2020, la prise de grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Strasbourg. Est-ce qu'il existe cette année une dynamique similaire ou alors pas du tout ?
Non, pas du tout, a priori. Enfin, on verra bien comment ça se traduira dans les urnes, mais en tout cas dans les sondages, on voit que la vague verte, elle n'est pas annoncée. Au contraire, les écologistes devraient avoir du mal à conserver les villes qu'ils ont prises, les plus symboliques que vous avez citées, hein. Lyon, Bordeaux, Strasbourg, ils y sont menacés dans chacun de ce qui, j'allais dire, de bastions. Non, ce ne sont pas devenus des bastions. En revanche, c'est vrai que ça a été des laboratoires de faire de la politique autrement. Autant on avait vu avec le RN qui n'avait pas réellement eu d'expériences très différentes dans la gestion des villes de leur part. Autant avec les écolos, oui, notamment évidemment au premier chef en ce qui concerne la mobilité, dans une ville comme Annecy par exemple, Strasbourg également, mais aussi à Lyon, les très grandes villes, Bordeaux. Mais parfois justement, ça s'est un peu retourné contre eux. Par exemple à Strasbourg, l'ancienne maire socialiste Catherine Trottmann, qui concurrence donc la sortante écologiste, met en avant cela en disant que bah, finalement aujourd'hui Strasbourg est bloqué par les vélos. À Annecy, il y a eu des excès qui sont d'ailleurs reconnus par le maire écologiste qui a même renoncé à se représenter. En revanche, un de ses anciens adjoints essaie de reprendre le flambeau en reconnaissant lui-même qu'il y a eu des excès dans ce côté laboratoire. À Grenoble, qui était la ville emblématique des écologistes parce qu'elle avait été prise dès 2014, donc avant la vague verte de 2020, et le sortant, donc Éric Piolle, ne se représente pas, et les écologistes, là aussi, ont du mal, la ville pourrait retourner à droite. Il n'y a plus de dynamique écolo au plan national. Cependant, on voit quand même ces derniers jours avant le premier tour frémir un peu les sondages et malgré tout, au gré des alliances, parce que les écologistes sont moins réticents que le PS sur les alliances, y compris à leur gauche, enfin je veux dire avec LFI, il y a quand même un frémissement.
Est-ce que la guerre au Moyen-Orient peut avoir un impact sur le vote écologiste, sachant que les électeurs sont bien entendu très attentifs à leur pouvoir d'achat, surtout ce qui concerne notamment les questions liées à l'énergie.
Et oui, c'est bien le paradoxe. Hein. D'ailleurs, c'est résumé par la fameuse formule « la fin du mois avant la fin du monde hein. ». C'est-à-dire que, bien sûr, que tout le monde est pour la conversion écologiste, c'est-à-dire la transition énergétique, c'est-à-dire la moindre dépendance aux énergies fossiles pour aller vers des formes plus propres d'énergie. Et on voit bien avec cette guerre et donc avec les répercussions sur le prix du pétrole que tout le monde y va de l'inventivité pour rendre la facture à la pompe moins douloureuse pour les usagers, pour les consommateurs, plutôt que à se tourner vers la sobriété énergétique. Paradoxalement, ça jouerait presque contre eux, alors que en 2020 et même un an auparavant aux élections européennes de 2019, c'était justement au contraire la primauté des questions, des inquiétudes sur le changement climatique qui avait provoqué cette poussée des écolos aux municipales.
Et la question des alliances va être très importante, bien entendu, au deuxième tour. Alors, quand sera-t-il des alliances entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, notamment après les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a ironisé, qui a été accusé d'antisémitisme après avoir ironisé sur des noms de famille de personnalités politiques juives.
Epstein, Glucksmann, Glucksmann, ça c'est vraiment les... Et en effet, ça lui est extrêmement reproché par le PS. Il y avait déjà... Par le PS, et il faut bien le dire quand même, une bonne part de la gauche non insoumise. Il y avait déjà eu, bien sûr, les répercussions du drame hein, du militant d'extrême droite tué par des antifas proches donc de LFI, d'un député LFI. Là déjà il y avait eu une espèce de réaction et de refus d'alliance qui avait été proclamé par certaines figures de la gauche socialiste, à commencer par François Hollande, Jérôme Guedj, mais également un peu plus largement. Et puis en effet, cette deuxième polémique qui est survenue coup sur coup avec ces accusations très claires hein, d'antisémitisme qui sont qui viennent du PS envers Jean-Luc Mélenchon, et donc avec une proclamation par Olivier Faure, le secrétaire national du parti, de non-alliance de premier tour au plan national. Alors c'est là qu'est toute l'ambiguïté, parce que bien sûr que les élections, là il s'agit non pas d'une grande élection, d'un grand scrutin national, mais de quasiment 35 000 élections totalement locales, et dont bien, alors évidemment on se cible sur les communes, disons au-delà de 10 000 habitants, dans lesquelles la situation politique est suffisamment complexe, alors sans parler évidemment des très grandes villes, donc où la situation est suffisamment complexe pour avoir besoin de telles alliances. Et donc les proclamations du PS ne devraient pas empêcher au cas par cas des arrangements, disons locaux, mais tout cela...
Si on prend une ville comme Lyon, par exemple, est-ce que Grégory Doucet pourrait s'allier à la France insoumise, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Ce sera à lui de le décider
il pourra en avoir besoin.
À l'issue du premier tour, mais il risquerait d'en avoir besoin. Mais vous savez, le problème, il sera davantage crucial pour le socialiste, enfin le maire sortant Benoît Payan à Marseille, qui lui risquera d'en avoir beaucoup plus besoin parce que le candidat LFI Sébastien Delogu, qui est en même temps député, devrait, enfin a de bonnes chances selon les sondages de passer le seuil des 10%. Et donc de pouvoir se maintenir au second tour. Et donc là, pour des villes qui pourraient basculer à droite, donc c'est le cas en effet de Lyon, c'est le cas de Marseille, puisque non seulement l'extrême droite y est puissante dans les sondages, il y a vraiment cette possibilité. Évidemment Paris, là où c'est la députée insoumise Sophia Chikirou, qui elle aussi pourrait, d'après les sondages, être en capacité de se maintenir au second tour, c'est là que se feront vraiment les points cruciaux. Et puis, il y a nombre de villes où le PS, quoi qu'il en dise, mais donc également les écologistes dont on vient de parler, entre les deux tours, il y aura forcément des arrangements possibles.
Henri Vernet, le camp présidentiel, depuis 2017, il n'a pas réussi à s'implanter localement. Pourquoi ?
Emmanuel Macron, finalement, après sa victoire à l'Élysée, il a mis du temps à organiser, à structurer son parti, c'est-à-dire à transformer ce mouvement, les marcheurs dont on se souvient, donc qui avaient fait cette façon nouvelle, un petit peu, de faire la politique. Ni gauche ni droite, le fameux en même temps. Mais ce ne s'était pas traduit en une force réellement programmatique, présente sur le terrain. Et donc, il y a vraiment eu du temps perdu.
La droite républicaine, c'est le parti qui, aujourd'hui, est le plus ancré localement. On sait que des grands bastions, Paris, Marseille, Bordeaux, ont très longtemps été justement des bastions de la droite. Ces bastions ont été perdus, mais aujourd'hui, la droite républicaine reste tout de même majoritaire dans les territoires.
Oui, il y est très présente. Ces conseillers municipaux sont les plus nombreux sur le territoire. Les mairies aussi, dans des villes d'importance. Néanmoins, ce que vous avez cité, c'est-à-dire que la perte de ces grands bastions, Bordeaux, ça avait été à droite pendant plus de 70 ans. Paris, tout le monde se souvient de l'ère Chirac. Et Marseille, avec Gaudin. Pour eux, ce serait quand même important pour les LR d'avoir des reconquêtes. Évidemment, Paris est l'un des objectifs principaux, même l'objectif principal, avec Rachida Dati, qui, même si elle n'est pas toujours facile avec son parti, reste emblématique de LR, des Républicains, du camp de la droite. Il y a également des espoirs, alors sur une ville qui fait moins tête d'affiche, mais qui pour eux deviendrait, du coup, si jamais ce n'était pas le cas à Paris, deviendrait la plus importante, c'est Nîmes, avec ses 150 000 habitants. Donc là, il y a vraiment un espoir important de conquête. Est-ce qu'il y aura la vague bleue qu'avait promise il y a quelque temps Bruno Retailleau, président de LR, ça, ce n'est pas assuré.
Et sur les villes qui auront une portée nationale, bien entendu, Paris, Marseille, Bordeaux, il y en a d'autres, des villes importantes scrutés qui auront une influence nationale importante pour 2027.
Ah oui, bien sûr, il y a celle que vous avez citée, parce que c'est à la fois le match droite-gauche, c'est le match à l'intérieur de la gauche qu'on a largement évoqué.
Et à Marseille, la portée nationale serait bien entendu extrêmement importante.
Ah oui, ce serait même un petit séisme politique, parce que ça signifierait quoi ? Marseille, c'est la deuxième ville de France en importance en population, et donc elle tomberait dans les mains du RN, ce serait une une première. Et évidemment, alors qu'il y a une dynamique RN qui est très nette sur le plan national, évidemment que là, ça enverrait un message très significatif et symbolique en vue de la présidentielle.
Cette dynamique RN, Henri Vernet, qui était l'objet de notre dernière émission, c'est pourquoi nous n'avons pas évoqué spécifiquement ce parti lors de cet épisode. Tout cela, eh bien, ce sera entre vos mains dimanche prochain, dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales. Un grand merci, Henri Vernet.
Merci.
Et merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.